Seigneur Dieu, j'ai pris tout simplement ce matin pour passer Eric. Il voulait nous partager ses repas, nourriture de ce matin, spirituelle. Ces repas, ça ne vient pas d'Eric, ça vient tout simplement de toi, Seigneur. Et chacun de nous ce matin doit manger cette nourriture, que ça doit travailler dans notre cœur pour nous purifier, pour nous sanctifier, Seigneur. Tout ce que vous voulez dire, ça ne sort pas dans sa bouche, mais tu dois l'expirer pour toi simplement, Seigneur. Je te remets, passe Eric entre tes mains. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Moi, j'étais, comme d'habitude, très saisi par ce qui a été dit, partagé au cours du culte. À nouveau, parler des saints, parce que j'aime beaucoup que nos enfants prennent part à la vie de notre culte et de les associer. Il nous faut associer la jeunesse dans nos partages, dans nos moments. C'est important. C'est très important. Hier, je participais à une manifestation sur les lois bioéthiques et je mettais en évidence, parce que j'avais été interviewé par une journaliste, le clivage entre la jeunesse et nous, les adultes. Et donc, il est important d'éviter ces clivages et de toujours, je dirais, faire en sorte qu'il y ait de la proximité de cœur à cœur avec les gens. De ne pas rompre les dialogues, de ne pas rompre la relation et d'être des témoins, tout simplement. J'ai beaucoup aimé l'introduction de ce culte sur la dimension de la joie. Et merci Seigneur pour notre frère Alain qui a eu ce chant dans son cœur et qui l'a entamé. Merci Père de lui avoir donné cette dimension. Et je dois dire hier que nous avons été édifiés avec Sabine parce qu'une personne était dans la joie. Il y avait même deux personnes dans la joie. Mais une personne était dans la joie particulièrement, c'était Daniel, que nous avons visité avec le pasteur Christian il y a 2 mois de cela. Et notre sœur Danielle et Marie, pardon, France, que nous avons vue également, elles étaient remplies de joie. D'abord, elles accueillaient Jésus dans leur cœur, mais elles avaient une bonne nouvelle à nous annoncer. En tout cas, Danielle avait une bonne nouvelle à nous annoncer. Et c'était extraordinaire hein, comme nouvelle. Hein, Biquette. Eh bien, le cancer de Daniel régresse. Il n'y a aucune métastase qui ne se soit répandue. Et vraiment, hier, elle nous l'a dit avec joie. Avec joie, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et moi, je crois à la puissance de la prière. À la puissance de la prière, à l'amour de Dieu incarné. Et hier, nous étions, enfin moi j'avais beaucoup de joie avec Sabine d'entonner les chants, les cantiques. Et en fait, c'est un mini-culte. Qu'est-ce qui vous dit que l'Église, c'est ici, les amis? Enfin franchement, quelle opinion avez-vous? Quelle représentation avez-vous? Le culte se fait aussi dans les lieux où nous allons voir les gens, nous allons les rencontrer. Car là où deux ou trois sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et le Seigneur était au milieu de France, Daniel, Sabine et Eric. Il y avait des cantiques, il y avait le partage, il y avait la prière, il y avait le partage des psaumes. Et puis il y a eu la prédication, parce que je leur ai faite la prédication. Ben voilà, le partage de la parole, le partage du pain de vie. Et j'étais très étonné, très surpris de voir leur cœur ouvert, l'ouverture de leur esprit, la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit avait visité ce lieu et le Saint-Esprit était là. Élise, la fille de Daniel, est venue, par curiosité sans doute, mais elle est venue, elle était contente. Et il y avait Owen également hein, qui était également présent. Et donc Owen qui se réfugie systématiquement dans la cuisine pour ne pas nous entendre, là, il était là. Il était présent. Donc il y a du bonheur dans la maison de Dieu et il y a de la joie quand des âmes s'ouvrent au Seigneur Jésus et s'ouvrent pour recueillir ce que tu avais dit, Angèle, la vie éternelle. Parce que ce qui nous importe, c'est la vie éternelle, c'est que nous soyons gagnés à Jésus. Alors je dis Amen à tout ce qui a été vécu. Amen. Dieu est vivant. Christ est vraiment ressuscité. Et nous avons pris rendez-vous là ce matin pour placer le roi des rois au-dessus de nous et le placer comme chef de notre vie, de notre cœur, et que nul ne se fasse appeler directeur, maître. Et j'allais dire peut-être que l'on a tellement à cœur d'avoir des titres, eh bien, mettons Jésus plutôt dans notre cœur. Amen. Et que Jésus soit dans mon cœur et que je sois que le canal de Jésus ce matin. En tout cas, c'est vraiment mon souhait d'être soumis à son esprit. Alors, on va reprendre cette deuxième partie. Pardon d'avoir été long, mais au fond, quelque part, c'est toujours édifiant d'entendre de bonnes nouvelles. Amen. Des âmes qui sont sauvées, une âme qui est guérie et qui est sauvée, wow, qui est restaurée en Jésus. Eh bien, merci Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus vit. Amen. Alors, on va reprendre cette deuxième partie, la parabole de Yotam. Alors, je ferai peut-être un petit retour en arrière, mais juste pour que nous nous saisissions, que nous comprenions la parabole de Yotam. Alors, notre technicienne n'est pas là. J'attends qu'elle soit là ou qu'elle revienne. Qu'elle soit à son poste. Amen. Merci à notre sœur qui est consacrée et qui vient le matin à 8 heures prier l'Éternel avec nous. Amen. Bien, alors on va parler des fruits. J'aime beaucoup le fruit de la joie. Hein? Le fruit de la joie, il est là, il est présent. Amen. Alors Yotam alla se placer sur le sommet de Garizim. Donc on est à la fin de l'épilogue du chapitre 6 et on est au chapitre 8 je crois, et Yotam alla se placer sur le sommet de Garizim et s'adressa à tout le peuple de Sichem et de Milo. Je dirai quelques mots sur Sichem. Le peuple s'était rassemblé pour proclamer Abimélec roi. Abimélec, homme inique, manipulateur et tyrannique. L'anti-juge, c'est l'anti-Gédéon. Une forme finalement d'antichrist qui s'est érigé en César, maître absolu. Et qui avait soudoyé auparavant quelques vauriens pour faire assassiner avec lui ses 70 frères sur une même pierre. Contrairement à Abimélec, Yotam, lui, avait compris les enseignements de son père, Gédéon. Yotam était le frère, un demi-frère d'Abimélec. Et il va proclamer une parabole qui est destinée à frapper les esprits, mais aussi le nôtre, parce que cette parabole, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Il y a tellement de chefs qui veulent être chefs. Tellement, je dirais, de pasteurs qui veulent être aussi des mini-papes ou des prêtres qui veulent être papes. Mais il n'y a que Jésus qui doit régner dans nos cœurs. Et ça, c'est l'enseignement de Gédéon. Alors, Yotam va s'exprimer sur le mont Garizim. Il va s'adresser pour avertir les peuples de Milo et de Sichem. Alors, tous ceux qui connaissent les Écritures connaissent, je dirais, ce peuple descendant de Sichem, qui avait été marqué par une autre tuerie. Donc c'est à Sichem qu'il y a eu cette tuerie où les enfants de Jacob vont venger leur sœur Dina. Et ils vont assassiner à la fois le père Sichem, donc le père de Sichem. Ils vont assassiner tous les hommes. C'est Siméon et Lévi qui voulurent en quelque sorte rendre l'honneur à leur sœur qui avait été violée par Sichem. C'est important de rappeler ces détails dans les Écritures. Parce que Sichem n'est donc pas n'importe quel lieu, n'importe quel endroit. Il y a déjà là une dimension de malédiction qui existe à cet endroit. Et voici ce que proclame Yotam du monde de Garizim, qui est le monde de la bénédiction. Et voici ce qu'il dit. Alors, on peut peut-être voir l'arbre et ensuite les fruits. Et ensuite les fruits, parce que Abimelech, qui se trouve là à côté du chêne, qui est juste sur cette image, il est là hein, sur le chêne, parce que vous savez, le chêne a quelque chose de majestueux. Et en termes de symbole, il veut impressionner. Comme Saint-Louis qui était près de son chêne pour rendre la justice, hein, quelque part. Alors, il est là. Et Yotam va s'exprimer. Un jour, les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Les arbres voulaient un chef. Ils voulaient un roi. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi ». L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui rend honneur aux dieux et aux hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres se dirent au figuier, « Viens-toi. Sois notre roi. » Et le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ou planer au-dessus des arbres ou régner sur les arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller planer, me balancer au-dessus des arbres. » Trois arbres attachés à leurs fruits qui renoncent à régner car ils veulent tout simplement donner ce qu'il y a de meilleur dans le ministère qui est le leur et ne pas planer sur les autres arbres. C'est un enseignement d'une immense richesse. Alors on poursuit, Yotam poursuit. Il s'adresse finalement avec ironie à Abimelech, l'assassin de ses frères. Et il dit ceci, au buisson d'épines, ben viens-toi, régnez sur nous. Le buisson d'épines répondit ceci, buisson de ronces et d'épines. Si c'est de bonne foi que vous moignez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Venez vous abriter sous mon ombre. Cet arbre n'a pas de fruits. Il n'a que des ronces et des épines. Les ronces et les épines poussent souvent dans les chemins rocailleux. On y reviendra dans les déserts. Et voici la menace de ce arbrisseau qui n'est pas un arbre. Voici ce qu'il dit. Si c'était de bonne foi que vous moigniez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre, sinon un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cimbres du Liban. Que ta parole soit bénie, Seigneur. Amen. Parce que c'est un enseignement qui n'est pas uniquement dans l'actualité de Gédéon, mais cela nous concerne. Nous avons à chercher, comme tous les cantiques l'ont désigné, à placer Jésus comme roi dans notre cœur, comme Seigneur de notre cœur. Lui seul est appelé à régner dans nos vies. Lui seul doit diriger nos pas. Lui seul est notre lumière. Nous avions évoqué dimanche dernier et au préalable les contextes de la parabole de Yotam. Je pense que c'était important d'y revenir. Cette parabole que nous avons lue, celle des arbres qui se mirent en quête d'un roi qui accepterait de régner sur eux, il fallait revenir sur ces contextes de Gédéon. Et nous avons notamment, souvenez-vous, mémoré quelle fut la situation et la condition de vie des Israélites. En fait, souvenons-nous que les Israélites firent ce qui était mal aux yeux de Dieu. Tout le pays, c'est ce qui nous est décrit, après l'invasion systématique des Médianites, le pays fut comme dévasté, le pays occupé par les Israélites fut comme dévasté, détruit, désolé, pillé. Tout le peuple israélite était en souffrance, meurtri. Un pays dévasté, des cœurs dévastés. Nous avions noté dimanche dernier la terreur, l'effroi quotidien que produisirent les Médianites à l'endroit des Israélites. Comme je l'ai dit à Daniel hier, Dieu permet les épreuves dans notre vie et dans notre existence, oui ou non? Pourquoi Dieu permet-il la maladie? Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve? Pourquoi Dieu permet-il la dépression parfois? Bien pour que nous revenions à l'Éternel. Alors tu te dis, là, je suis bien portant et j'en profite. Et puis demain, badaboum. Mais ne crois pas que le Seigneur te châtie et te corrige pour rien et inutilement. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Il fit cela pour Israël afin que le cœur d'Israël revienne à lui, vienne à nouveau le considérer comme le souverain. Souvenez-vous, dimanche dernier, que nous parlions de l'ange de l'Éternel. En fait, Christ, il est partout, Jésus. Il est là. Et Dieu leur envoya l'ange de l'Éternel vers Gédéon, qui est aussi appelé Yerubéal, ce qui signifie celui qui combat les Baals, ou que Baal se défende, et choisit Gédéon pour battre les Médianites, celui qui finalement, à ses yeux, ne valait pas grand-chose, se considérait comme étant petit. Je ne vais pas m'étendre sur ce qui avait été partagé dimanche dernier. Vous avez en mémoire tout ce qui a été dit à ce propos. Le texte de Juges 6 est d'une richesse infinie. J'aurais pu m'attarder sur d'autres versets, mais ce texte de Juges 6 nous parle de Jésus. Il préfigure la dimension sacrificielle de celui qui est notre roi. Et sans m'attarder sur l'ensemble des versets, je voudrais vous commenter ce magnifique verset de Juges 6, 20, où l'ange de l'Éternel demanda à Gédéon de prendre du pain sans levain et de la viande et de les poser sur un rocher, puis de verser le jus sur la viande et le pain. Je trouve que ce passage-là, il est extraordinaire. L'ange de l'Éternel toucha avec son bâton et un feu, donc, qui toucha avec son bâton le sacrifice, et un feu jaillit. Eh bien, que tout notre cœur, là, ce matin, soit comme saisi par cette dimension sacrificielle qui préfigure le puissant sacrifice de Jésus, qui nous baptise, parce qu'il y a un feu qui jaillit, qui nous baptise de son feu, le feu de son esprit, en nous, dans nos cœurs. Il est dit dans le Lévitique, chapitre 6, 12, que le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra jamais. Le feu de l'esprit ne s'éteindra jamais. Lisez le Lévitique 6. C'était une métaphore du sacrifice le plus élevé qui ne s'éteindra pas. Dieu, à travers ce texte de Juge 6, nous dit tout de la personne de Jésus. Et Gédéon était en face de celui qui était la promesse. Amen. Il est votre promesse. Il est celui qui vous accompagnera au quotidien, jour après jour. Vaillant guerrier. Vous êtes tous des vaillants guerriers. Amen. Amen. Rappelons ce point également important qui enrichira le commentaire que nous allons produire à propos de la parabole de Yotam. Après sa victoire, la victoire des Israélites, les Israélites vont demander à Gédéon d'être leur roi. C'est tout naturel, hein ? Une victoire, tu nous as emmené là, ouais, le chef. Et Gédéon refuse catégoriquement de dominer sur eux. Gédéon indique que ni lui, ni ses descendants ne régneront sur les Israélites. En quelque sorte, souvenons-nous, ni les 72 enfants, garçons, ne domineront sur eux. Gédéon répondra que seul Dieu doit régner dans nos cœurs. Et je cite Gédéon 8, 22, « Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Règne sur nous, puisque tu nous as sauvés, tu nous as délivrés des Médianites. Ton fils, puis ton petit-fils, ta descendance, te succéderont. » Gédéon leur répondit, « Non, je ne régnerai pas sur vous. » Et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. Oui, nous avons envie de dire avec Christian, Olivier, moi-même, c'est pas à nous de régner sur vous. C'est à Jésus de régner dans vos vies et dans vos cœurs. C'est le Seigneur qui vous gouverne. C'est pas nous qui avons d'autorité sur vous, mais Dieu a autorité sur vous. Nous ne sommes que des instruments soumis à son esprit. Soumis à son esprit. Et nous ne sommes que vos frères, que des petits frères. Amen. Et nous ne sommes pas plus grands que vous. Dieu est appelé à régner dans vos cœurs. Amen. Amen. La parabole de Yotam montre finalement la dérive d'un peuple. Toutes les églises, dans tout leur temps, finalement, ont dérivé, ont cherché des chefs. Souvenons-nous que dans les Écritures, et je lis, et je dois vous rendre ce livre magnifique que tu m'as prêté. Souvenons-nous que Paul établit des anciens, et non pas un ancien, jamais, mais des anciens. Ça, c'est un point important. La parabole de Yotam donc montre la dérive des arbres, donc de nous-mêmes, à chercher un homme, un arbre, capable de régner sur eux. Rien de plus naturel. Après la victoire des Médianites, Gédéon, il est sollicité. Il est appelé à dominer sur Israël. Ouais, c'est un chef. Donc on a cherché De Gaulle pour régner sur le peuple français parce qu'effectivement, il a apporté la délivrance. Mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul. On est d'accord. Et tout ce peuple dit, mais tu nous as sauvés. Mais qui sauve? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu notre Rédempteur. C'est lui qui sauve notre cœur et notre âme. Qu'est-ce qu'un homme? Ce n'est pas un homme qui vient vous sauver, c'est Dieu qui vient vous sauver. Dieu choisit des hommes pour être dans ce plan de salut. Et Gédéon fut un homme, un instrument, un canal. Et là, comprenons bien que nous ne sommes que des canaux, que des instruments. Amen. Alors, les Israélites, ils s'empressent de leur dire, « Mais tu auras une royauté héréditaire et le désir inné de tout homme, ben, c'est d'avoir quelqu'un de visible. » Mais nous avons un Dieu qui, certes, est invisible à nos yeux, mais dans nos cœurs, nous savons qu'il est présent, qu'il est là, il est au milieu de nous. Christ est au milieu de nous, là, il siège, il campe auprès de ceux qui le craignent. Il est réellement présent. Ressentez sa présence au milieu de vous, mes frères et sœurs. Oubliez-moi, entendez, on pourrait même fermer les yeux et écouter Jésus parler à nos cœurs. Toute l'histoire de notre humanité est peuplée d'hommes qui ont été érigés en chef après avoir mené des batailles dont ils furent vainqueurs. Or, Jésus nous demande de le consulter, de nous soumettre à sa parole. Que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs, dans vos cœurs. Alors évidemment, nous sommes appelés à prier pour les autorités. Et Dieu veut que nous prions pour les autorités que Dieu a données. Amen. Et là, il nous faut être équilibrés. Paul nous invite, nous convie, nous abjure de prier pour les autorités. Donc de ne pas contester, mais de nous soumettre aux autorités que Dieu a établies. Mais les autorités doivent être humbles, pleines d'humilité. Les arbres pressentis pour régner déclinent l'offre parce qu'ils sont attachés à leurs fruits. Ils s'attachent à leur appel, ils s'attachent à leurs fruits. Et on peut reprendre ces dessins, Jean, Véran, la douceur, les fruits, la douceur, la figue, amen. Faites-vous une salade de fruits, prenez de la figue, amen. Des raisins, waouh. Quelle douceur, la figue, la joie, on a parlé de la joie. Que nous soyons un peuple joyeux, parce que ça vient de Dieu. Dans un monde aussi sinistre que le nôtre, nous devons incarner la joie et la paix. La joie et la paix. Je ne redirai pas ce que j'ai dit dimanche dernier, mais demeurez dans la joie. Et puis, donnons soin aux âmes. C'est ce que Dieu nous invite à faire. Prenons soin des uns et des autres. L'huile! Et alors ça a beaucoup parlé à Daniel qui a dit « Ah oui, l'huile, ça nous donne du soin. » Et quand elle a tout saisi, tout compris. En plus, elle aimait ses fruits. Alors que nous soyons comme pleinement habités. N'idéalisons pas et ne montrons aucune admiration excessive à qui que ce soit d'entre nous. Nous ne sommes que des instruments dans la main du Seigneur. N'oublie pas ce que dit l'Écriture. Qu'as-tu ce que tu n'es reçu ? Qu'as-tu ce que tu n'es reçu ? Je vous cite ici 1 Corinthiens 4, 7. Ou bien je vous cite Matthieu 23, du verset 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Je vous relis, hein, je vous redonne la référence. Matthieu 23, 8, 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et si vous êtes mes frères, n'appelez donc personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites donc pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le Christ, Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, attache-toi à ton fruit. Attache-toi à ton fruit, au don que tu as reçu, et demeure en Christ. Attache-toi à ton fruit. Attache-toi au don que tu as reçu. Cherche pas à planer sur les autres arbres. D'abord, tu planeras. Tu planeras complètement parce que tu seras finalement hors sol. Enracine-toi en Jésus. Enracine-toi dans la parole. Sinon, tu décolles si tu n'es pas enraciné. Amen. Et ceux qui décollent, bah, malheureusement, à force de planer, iront contre le mur, l'obstacle. Donc, enracine-toi. Enracine-toi. Alors, Gédéon fait cette réponse aux Israélites. « Je ne dominerai pas sur vous. L'Éternel dominera sur vous. » Il va résister à la demande des Israélites. Il ne va pas dominer le peuple de Dieu. Et le pays connut alors la paix. La durée de la, toute la durée de la vie de Gédéon. Pendant 40 ans, ce pays connut la paix. Je pense que c'est une bénédiction que ce peuple a vécue parce que Gédéon a su refuser de régner sur son peuple. Il n'a été qu'un juge arbitraire, il a été attaché à son fruit et seulement à son fruit. Mais Gédéon fit une erreur terrible. Oui, si vous connaissez les Écritures, il a commis une erreur terrible. Terrible. Et cela vaut pour nous tous. Nous pouvons commettre des erreurs terribles. Et le Seigneur nous demande de savoir reconnaître nos erreurs. D'avoir l'humilité de lui demander pardon pour nos péchés. En fait, ce que fit Gédéon, il a demandé aux Médianites, qui étaient là, aux Ismaélites également, je crois, ben de leur apporter des boucles d'oreilles, des anneaux d'or, des ornements en forme de croissant, des vêtements de pourpre, des colliers qui étaient au cou de leurs chameaux, aux chameaux des Médianites et des Ismaélites. Beaucoup de ces objets étaient malheureusement associés à la vénération et à l'adoration des dieux Baal. Beaucoup de ces objets. Alors, il voulait faire quand même quelque chose que les prêtres hébreux portaient. Il voulait faire un épode. Mais de quel métal étaient à l'origine ces métaux et ces biens ? Ils étaient dédiés à la vénération des dieux Baal. Et très vite, cet objet, cet épode, devient un objet de culte, mais un objet de culte païen et un objet de prostitution. C'est ce qui nous est rapporté dans Juges 8:27. L'épode est devenu un objet de prostitution parce que le fondement n'était pas juste. Et nous pouvons garder des choses dans nos vies en disant ben, « ça, je le garde, oh, Seigneur, je le garde ». Le Seigneur dit « sépare-toi de ces choses qui viennent encombrer ta vie ». Il y a des choses qui encombrent nos cœurs et le Seigneur dit « mais il faut que tu te libères de ce qui encombre ta vie ». Il y a peut-être du déménagement à faire, hein, un biquette. Il y a des choses auxquelles on est tellement attaché à notre passé, mais cela nous éloigne du Père, nous éloigne de notre Créateur, nous éloigne de Dieu. Regardez, examinons ce qui encombre notre vie. Séparons-nous de ces choses. Dieu règne dans ton cœur. Tu as dit « oui, Jésus, viens régner dans ma vie ». Mais sépare-toi aussi de ce qui vient encombrer ta vie, ne te permet pas d'avancer et de progresser. Dieu nous enseigne à nous séparer des objets qui ont servi à d'autres choses, à d'autres cultes ou à nous éloigner du Père. Après la fin de vie de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer, c'est ce qu'il nous est dit, à vénérer des dieux, les dieux de Baal. Les Israélites ne se souvèrent plus de l'Éternel. Il y a une dégradation, une forme de délitement de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu. Ils retournèrent à ce qu'ils avaient finalement vomi pendant le règne de Gédéon. Ils ont oublié que Dieu les a délivrés de la main des Médianites plusieurs décennies plus tôt. Et les Israélites firent à nouveau ce qui est mal. 40 ans, plus de 40 ans après, ils firent à nouveau ce qui est mal. On est comme ça, on oublie les enseignements que Dieu nous donne. On oublie les enseignements qui nous convient à être dans la pureté. On oublie les enseignements que Dieu nous donne au fil de l'eau. Et le Seigneur nous convie à revenir à sa parole. Et que cette parole s'incarne dans nos cœurs. Et que nous nous détachions de tout ce qui fait obstruction dans notre relation avec Dieu. Quand on piétine les avertissements de l'Éternel, lorsqu'on abandonne la foi, les enseignements que nous confère la parole, alors la tentation est d'éviter que Dieu vienne régner en nous. Vous comprenez ? Quand la tentation est venue dans notre cœur, on fait tout pour éloigner Dieu de notre cœur et de notre vie. Et nous sommes prêts alors à livrer nos mains à ceux qui entendent régner à la place de Dieu. Quand on abandonne sa foi, quand on abandonne l'Église, quand on abandonne le corps de Christ, on a la tentation de revenir alors au monde. Abimélec, le fils de Gédéon, a méprisé les enseignements de son père. Et vous savez, vous vous en souvenez, il va livrer une forme de campagne politique auprès des frères et de sa mère pour gagner le pouvoir. Sa campagne politique, son slogan de campagne est « Ne vaut-il pas mieux qu'un seul homme pour gouverner plutôt que 70 ?» C'est pour ça que nous tenons beaucoup à la collégialité dans la vie de l'Assemblée, pour qu'il n'y ait pas un petit gouvernement, mais qu'il y ait une collégialité de frères et de sœurs qui, ensemble, prient et intercèdent l'Éternel. Abimélec, après avoir fait assassiner odieusement ses frères, attend son couronnement. Abimélec se tient près d'un chêne comme s'il recherchait le symbole majestueux de cet arbre. Tu peux mettre l'arbre. Il cherche le symbole majestueux de cet arbre. Mais Yotam, ironique, compare Abimélec dans sa parabole à un arbrisseau. On peut revenir sur l'arbrisseau, les ronces et les épines, qui sont dépourvus de fruits, les ronces et les épines, dépourvus de fruits, d'aucune qualité requise pour exercer la royauté. Un arbre sans fruits, un arbrisseau. Vous voyez, l'arbrisseau est le chêne, quoi. L'ironie de Yotam. Ce César, cet Abimélec n'était qu'un pis-aller, un buisson et non un chêne, un buisson et non un chêne, un arbrisseau et non un arbre, et un arbrisseau desséché, épineux, sans aucune consistance, sans aucun contenu spirituel. Il pousse dans la désolation, les arbrisseaux, les ronces et les épines poussent dans la désolation. Dans le désert spirituel, lorsque les hommes et les femmes ne se mettent plus en quête, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rechercher de tout leur cœur l'Éternel. Jésus lui-même parle des ronces et des épines qui viennent étouffer la foi. Oui ? Vous vous souvenez de la parabole du semeur ? La parabole du semeur, il y a la bonne terre, il y a la terre, il y a la semence qui est jetée sur le sol rocailleux, là où il y a des ronces et des épines. Alors, il est dit ici les soucis. Mais les soucis viennent dès lors qu'on ne demeure plus en Christ. Ça ne veut pas pour autant dire que l'épreuve ne vient pas dans la vie. L'épreuve nous vient toujours dans la vie pour nous ramener à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'aucun chrétien, aucun d'entre nous ne sera jamais éprouvé. Nous pouvons être éprouvés dans nos vies. Et ceux qui avancent dans l'âge savent combien ils sont éprouvés dans leur corps parce qu'ils voient moins bien, parce que les os sont plus fragiles. On se tasse, on n'est plus à l'aise pour se déplacer, pour courir, on s'essouffle, on n'a plus l'énergie. Et puis il y a des épreuves, hein, comme je l'ai dit, le travail, la vie professionnelle, quand vous êtes non corruptible dans votre cœur, que vous ne voulez pas céder à la tentation, eh bien, vous êtes persécuté. Donc, l'épreuve existe bien. Elle touche tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Ceux qui sont en Christ seront persécutés. Amen. Oui. Ça, c'est le vrai évangile qui est prêché. Ne pensez pas que vous ne serez jamais éprouvés. Vous serez éprouvés. Jésus nous l'a dit. Mais n'abandonnez pas la partie à votre adversaire qui veut pourrir le reste de votre vie. Le texte nous emmène loin de la réflexion spirituelle, le texte de Yotam. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas, nous, plutôt à convier à nous nourrir des fruits que portent les arbres que nous décrit Yotam. Et ces arbres, la figue, le raisin, l'olivier, le fruit de l'esprit, vivre dans la joie de son esprit, veiller en remplissant sa jarre de son huile. Amen. Quand je pense à la description des arbres, je pense à mon roi, couronné, lui aussi de ronces et d'épines. Jésus a été couronné de ronces et d'épines. Mais c'est tout le mal, tout le péché qu'il a pris sur lui. Humilié par les hommes, car il a refusé de les dominer. Jésus a refusé de dominer sur les hommes. Quand le diable, quand Satan s'est présenté à lui, quand il a été tenté pour prendre et occuper tous les royaumes de ce monde, Jésus a refusé la tentation que lui était proposée par Satan. Il a embrasé mon cœur. Il a versé sur moi et sur chacun d'entre vous son huile, l'huile de joie. Il m'a restauré et guéri à travers l'huile sainte de son esprit déversée pour toi, pour moi. Il a transfiguré à travers son sang qui est symbolisé par le vin. Prenez ceci, ceci est mon sang. Donnez à chacun d'entre vous. Quand nous avons pris la Sainte Cène, nous avons mémoré le sang qui a été versé par Jésus pour nous, afin que nous, par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Par son sang, nous soyons guéris. Il me procure la seule nourriture qui vaille, sa douceur. Quand Jésus a eu faim, il a demandé au figuier d'avoir cette figue. Vous vous en souvenez ? Sa douceur. Dieu veut te procurer sa douceur. Ne sois pas hargneux, violent avec les autres. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas dans la rangue. Sois humble, parce que Dieu te demande d'être humble et doux de cœur. Hier, il y avait beaucoup d'hostilité, mais je crois que ce qui était important, c'était le calme et la douceur, d'être dans la bienveillance. De la bienveillance. Et c'est comme ça que l'on reconnaît celui qui appartient à Christ. C'est sa bienveillance, la bienveillance que nous avons à l'égard de nos frères et de nos sœurs. De l'amour, de la bonté. Pas l'amour galvaudé, hein. L'amour bienveillance, l'amour saint, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, ne reproche rien, mais sait tendre la main. Renoncez, mes frères et sœurs, à la tentation de vouloir dominer. De dominer, y compris les situations. Parce qu'on veut être maître des situations, non ? Est-ce que vous êtes Dieu pour dominer sur les situations ? Mais priez l'Éternel pour savoir comment vous en sortir. Demeurez en lui pour savoir comment sortir de l'épreuve. Mais ce n'est pas avec votre petite main que vous allez vous débarrasser des situations. Laissez-vous conduire par son esprit. Et j'aimerais vous citer Romains 8, 14. Parce que tu me dis, oui, mais sur quelle base tu te fondes pour dire cela ? C'est important. Romains 8, 14. Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont les fils de Dieu. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour toi un père. Dieu notre père. Et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et je conclus avec ce verset de Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous et toutes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs. Et attachez-vous à votre fruit. Alors si tu as de la douceur, cultive cette douceur, et encore plus, et encore davantage, et plus encore, et dans l'humilité, qu'aucun d'entre vous ne soit prisonnier de son orgueil, mais soyez soumis à Christ. C'est lui qui doit régner dans votre cœur. Prends soin de tes frères et sœurs. Si c'est ce ministère auquel tu es, a été appelé, prends soin et encore plus et encore davantage, car c'est à cela que tu es appelé. C'est ton ministère, celui de prendre soin. Amen. Il y a ceux qui l'ont reçu, ce fruit. Et Dieu ne leur ôtera pas, mais attachez-vous à ce fruit. Attachez-vous pleinement à ce fruit. Prenez encore soin davantage des uns et des autres. Amen. L'huile de guérison. Il y a ceux qui ont reçu un ministère de guérison, qui l'ont. Mais c'est aussi par nos paroles, par nos encouragements, que nous sommes aussi vecteurs de cette huile. Nous avons reçu, comme je l'ai dit à notre sœur Anguette, le ministère de la réconciliation. C'est un ministère que nous avons tous reçu, tous. L'appel, vous l'avez tous, vous avez tous été appelés à exercer le ministère de la réconciliation parce que vous êtes ambassadeurs. Dieu a fait de vous des ambassadeurs. Amen. Des ambassadeurs de paix. Tu appartiens à l'ambassade de Christ. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Quand tu te déplaces, où que tu ailles, où que tes pieds soient, tu es l'ambassadeur de Jésus. Amen. Où que tu sois, dans ton village, dans ta commune, dans ton quartier, tu es une ambassadrice. Tu viens de la part de l'ambassade de Jésus. Amen. Dans ton immeuble, tu es l'ambassadeur de Jésus. Amen. Tu dois être respecté parce que tu es un ambassadeur et une ambassadrice. Amen. Dans ton travail, tu es une ambassadrice. Une ambassadrice de la paix. Soyons des ambassadeurs, mes frères et sœurs. Amen. Et détachez-vous de tous les objets qui viennent encombrer votre vie. Ça, c'est l'exhortation que le Saint-Esprit donne à chacun et chacune d'entre vous. Détachez-vous des objets qui vous éloignent du Père, parce que le Père doit régner absolument sur tous les compartiments de votre existence et de votre vie. Je vous le dis de la part du Seigneur Jésus. Amen. Débarrassez-vous de ces objets qui encombrent votre vie. Que Jésus vienne régner dans vos cœurs. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.